Ce matin, on peut lire que le virus de la COVID-19 vit jusqu'à 28 jours sur les surfaces. C'est une étude qui a été faite par des chercheurs australiens là, qui nous dit ça. Un important laboratoire australien qui s'est penché sur la chose. Et là, ben, je me suis dit, voyons donc, on nous a dit autre chose. 28 jours, c'est long. Parlons-en tout de suite avec le microbiologiste Marc Hamilton. Bonjour Marc.
Oui, bon matin.
28 jours sur les surfaces, dans quelles conditions ça? D'abord, un, est-ce que c'est vrai que ça peut être 28 jours? Et deux, si oui, dans quelles conditions?
Bien, vraisemblablement, l'étude prouve que oui, ça semble durer plus, ben, du moins 28 jours sur certaines surfaces, mais ce qu'il faut mentionner, c'est dans des conditions exceptionnelles. Donc, on s'entend que c'est des conditions où est-ce que c'est à l'obscurité, à 20 degrés, un taux d'humidité à 50%, donc pas de facteur qui crée de l'austérité autour ou hostile autour du virus. Donc, c'est des conditions qu'on voit pratiquement jamais en temps réel.
Mais ça ressemble quand même à l'intérieur de nos maisons. À moi, qu'est-ce que tu appelles un facteur d'hostilité face au virus?
Ben c'est comme exemple.
Du vent ou
ben c'est surtout la lumière, les ultraviolets. Les ultraviolets, okay. C'est la première. Les ultraviolets, la lumière, la variation de température dans une journée, comme exemple. Si t'es toujours à 20 degrés, à 50% d'humidité, c'est comme si tu serais dans un incubateur. Tandis que, tu sais, dans la réalité, tu vas être à moins 10 degrés, tu vas avoir des variations de degrés dans une maison qui part de 12 à 20 ou à 20-25. Tu vas avoir l'humidité qui va changer. Donc, on a des facteurs qui fait que dans la réalité, on n'a pas c'est pas la réalité qu'on voit dans cette étude-là. Donc, c'est comme je dirais, prenez une personne, puis dosez-y toujours là, bon à manger, faites-les pas travailler, donnez-les un minimum de stress, et la personne risque de vivre plus longtemps qu'une personne dans des conditions de stress différents. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait avec le virus. En réalité, le virus reste, comme nous, on le teste fréquemment sur des surfaces de contact, très fragile à toute forme de milieu hostile. Donc, on voit que les rayons ultraviolets, donc quand on est à l'extérieur, quand on est à l'extérieur, le virus se propage moins, tout à fait vrai. On voit l'été passé, on a eu une été très chaude avec des rayons ultraviolets très puissants. Il y a eu très peu de propagation du virus l'été passé parce que c'était tous des facteurs environnementaux qui favorisaient le virus à pas prendre de l'espace à cause qu'il était dans un milieu très hostile où est-ce que l'humidité changeait tous les jours. Donc, on voit que puis quelque chose qui fait à penser aussi quand je lis l'étude, c'est quand ils ont contaminé les surfaces, ils ont mis beaucoup de virus sur la surface.
Beaucoup de gouttelettes, beaucoup d'aérosols.
Beaucoup d'aérosols. Et on le sait que dans la réalité, sur une surface, quand nous, on fait des tests en laboratoire, on retrouve des traces. On ne retrouve pas des millions de particules virales sur des surfaces. On va en trouver, voire 1000, 1500, 2000, mais pas 1 million. Donc, probablement qu'eux, quand ils ont contaminé la surface, ils ont mis des quantités phénoménales.
Ben, ils ont mis 10 microlitres de liquide avec le COVID-19 sur chacune des surfaces, puis ils l'ont laissé là jusqu'à 28 jours. 10 microlitres, là, est-ce qu'on sait à combien de gouttelettes ou de ça équivaut?
Ben ça peut, on faut le quantifier parce que la quantité de liquide ne correspond pas à la quantité de virus.
C'est ça, la concentration peut varier selon.
Peut varier, ouais. Exact. Dans 10 microlitres, on peut retrouver 100 millions là de c'est tellement petit que ça prend vraiment pas beaucoup d'espace, mais il reste que d'avoir contaminé une surface qui, selon l'étude, dit correspond comme si on serait au pic de l'épidémie. Donc c'est des surfaces qui ont été quand même contaminées fortement. Mm-hmm. Mais la seule chose que moi je trouve qu'elle aurait dû rajouter dans cette étude là, c'est le taux de mortalité de jour en jour. On est parti, exemple, mettons, 100 000 particules virales. Après une semaine, il en restait combien? Après deux semaines, il en restait combien? Puis là, ils disent dans l'étude, après 28 jours, on a découvert des traces vivantes. Donc, des traces, c'est pas nécessairement la quantité qu'on a retrouvée au début où est-ce qu'il y en avait beaucoup. Donc, ils ne donnent pas la courbe.
Voilà. Et ces traces-là sont-elles véritablement encore un vecteur de contagion? Ça, on ne le précise pas non plus, c'est ça?
Exactement. Donc, tu sais, c'est pas toujours clair la quantité de particules virales qu'il faut pour infecter un humain. Ouais. Mais il reste qu'au niveau des traces, c'est très peu probable que des traces contaminent un être humain.
On a Jean-François qui nous appelle avec une question. Bonjour, Jean-François.
Bonjour.
On vous écoute?
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui, tout à fait bien.
Bonjour, M. Hamilton. J'aurais une question à vous demander. Est-ce que le fait qu'on tombe en hiver et que l'air est beaucoup plus dense à cause qu'on est, il y a moins d'énergie dans l'air, est-ce que le fait que quand on respire et qu'on expecte, comme il y a de la chaleur dans l'air et de l'humidité, à ce moment-là, comme quand on souffle à l'extérieur puis qu'il y a de la brume, que ça monte vers l'extérieur, est-ce que ça se peut que, on va dire, la charge, on va dire, d'eau, les molécules d'eau avec le...
La charge virale, oui.
Avec ça, ça dessique. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que ça va plus loin parce que c'est rendu plus sec, puis ça se tient plus dans l'air comme des poussières. Donc, à ce moment-là, versus l'été, où ce que l'air, elle est plus, il y a plus d'humidité, donc ça sèche moins, puis à ce moment-là, le virus tombe plus vite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit, la dessication.
Ben pour vous aider à mieux comprendre, c'est que c'est sûr que les virus respiratoires comme la grippe, les rhumes aiment beaucoup les climats beaucoup plus froids que très chauds. Ils vont aimer des climats plus secs que très humides. Donc c'est sûr que quand on a 100% d'humidité l'été, où est-ce qu'il pleut, le virus aime pas ça. Il va aimer beaucoup plus des températures à 2, voire même en bas de zéro. Il y a pas de difficulté à vivre au frais, à une humidité qui va être plus sec que très humide. Donc, c'est sûr que ce qui va favoriser une infection durant l'hiver, c'est que nous, quand on est dans un climat qui fait très sec, parce qu'on sait que l'hiver, dans les maisons, il y a moins d'humidité, et on pogne des chocs partout, puis ça veut dire que c'est sec dans une maison. Et qu'est-ce que la sécheresse, qu'est-ce qu'elle fait au niveau de notre respiration? C'est qu'elle va rendre nos muqueuses, nos sinus très secs. Et quand nos muqueuses deviennent sèches, ben ils deviennent enflés, donc on vient comme le nez bouché plus facilement, et ça favorise l'entrée des virus, parce que quand on a de l'inflammation au niveau des sinus, on devient plus facile en contact avec une particule infectieuse, et on peut développer plus facilement la maladie, parce que justement, nos muqueuses sont sèches. Donc quand ils disent, irriguez bien vos muqueuses durant l'hiver, ça peut favoriser à diminuer la propagation du virus entre individus.
Mais ça, c'est intéressant. Merci de votre question, Jean-François, très pertinente. Donc, on s'irrite. Il faut s'irriguer les muqueuses, hein, c'est ça qu'on comprend. Est-ce qu'il faudrait s'acheter un humidificateur, vous diriez, Marc, pour l'hiver? Parce qu'on comprend que plus il fait chaud, moins le virus survit. Mais donc, plus il fait froid, puis plus il aime ça. Donc, on peut jouer sur l'humidité à l'intérieur de nos maisons, parce qu'on nous dit quand même dans cette étude que la température ambiante à 20 degrés Celsius, une température pièce normale, c'est celle qui permettra au virus de demeurer contagieux le plus longtemps. Donc, est-ce qu'un humidificateur pourrait arranger un peu notre situation?
Bien, c'est embêtant à dire, parce que trop d'humidité dans une maison, quand on est rendu à 60-65% d'humidité,
c'est peut-être... Non, effectivement, ouais.
C'est trop. Être à 50, c'est confortable, puis à 50, bien, le virus aime ça aussi. Donc, c'est embêtant. Le virus aime les climats où est-ce que l'humidité ne passe pas nécessairement 50%. Donc, lui, il va vivre, même s'il y a 20-30% d'humidité, il va bien vivre. Pourquoi? Parce qu'il est enveloppé d'une enveloppe de graisse. Hein. Il y a une enveloppe de cholestérol autour de sa cellule qui le protège justement contre l'humidité, qui le protège contre les températures froides.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en conclusion? Pour s'aider. On touche à rien là, sur les surfaces.
On se lave les mains. On se lave les mains aussi souvent qu'avant.
Okay.
Puis on s'irrigue le nez durant l'hiver, là, quand vous touchez, quand vous avez les sinus vraiment secs, mais à ce moment-là, de s'irriguer les sinus peut diminuer justement d'attraper les virus dans l'air.
La solution saline dans le lait, là, l'espèce de rince, sinus rince, là, docteur Laberge, elle est vendue à ça. Vous aussi, c'est une bonne idée pour repousser tout ce qui est virus?
Absolument. Absolument, ça empêche l'inflammation des muqueuses sinusales. Puis à ce moment-là, ça crée une barrière supplémentaire.
Merci beaucoup, Marc Hamilton, d'avoir fait le point. On se retrouve demain, tout le monde. Bonne journée.